Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal présenté par Belinda Bousouma.
Des cadres de l'inspection générale de la police outillés pour mieux faire les audits externes et les contrôles internes. La formation dispensée par l'Institut français de formation en sécurité s'est clôturée samedi dernier à Kinshasa. Vous entendrez à ce sujet le commandant de l'inspection générale de la PNC. À Bénéville, l'Agence congolaise de promotion des droits des personnes handicapées plaide pour la mise en place d'un cadre d'interprétariat de la langue des signes dans tous les bureaux administratifs. Appel lancé en marge de la Journée internationale des sourds-muets le 23 septembre. Et puis, il est interdit aux chefs coutumiers du Kassai central de quitter leurs entités sans autorisation préalable. Décision du ministre provincial de l'Intérieur, Alain Loukoussa, dit avoir constaté que plusieurs conflits dans des regroupements ou villages sont liés à l'absence prolongée ou à la gestion à distance des autorités coutumières. À tous et à toutes, bonjour. L'inspection générale de la police nationale congolaise est vivement engagée pour aider le gouvernement à maîtriser les effectifs de la PNC à travers toute la RDC. C'est ce qu'affirme le commissaire divisionnaire principal, le général Philemon Patience Mouchidiave, indique que cela justifie la formation clôturée samedi dernier par l'Institut français de formation en sécurité, TEMIS, en faveur des dizaines des cadres de l'inspection générale de la police. Cette formation organisée en collaboration avec l'École supérieure d'administration militaire a porté sur les méthodes et processus de préparation et de conduite des audits externes et de contrôle interne. Le commandant de l'inspection générale de la PNC revient ici sur l'importance de cette formation et les efforts pour la maîtrise des effectifs. Général Philemon Patience Mouchidiave au micro de Billy Van Lutumba.
Les souhaits d'envoyer mes inspecteurs dans les multiples écoles de Tchèze, c'était tout simplement chercher la professionnalisation de mes inspecteurs. Ils doivent être professionnels. Les ramener à travailler au standard international pour être plus efficaces comme les autres services d'audit et contrôle au niveau international. Ils ont acquis des méthodes et processus appropriés pour mieux faire les audits et les contrôles internes. D'ailleurs, avec cette formation réussie, les inspecteurs de la police nationale maîtriseront cette fois-ci les effectifs de la police nationale. Vous savez que le problème des effectifs, c'est l'épine dorsale que nous devons combattre pour que le gouvernement congolais réussisse à connaître combien de policiers fonctionnent sur toute l'étendue du pays. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est difficile. Mais avec la formation de ces inspecteurs, avec les méthodes acquises internes et externes, cette fois-ci, mon gouvernement saura le nombre des policiers congolais. C'est-à-dire, nous nous battons, et cette fois-ci, pour que nous atteignions un niveau qui nous aidera à bien contrôler les effectifs de la police nationale congolaise.
Par ailleurs, au Nord Kivu, désormais l'antenne provinciale de l'inspection générale de la police nationale congolaise est dotée de son propre bâtiment administratif sur financement de la MONUSCO à travers son unité de la police UNPOL. L'inauguration de cette bâtisse et sa remise officielle aux autorités congolaises a eu lieu mardi au pied du mont Goma sur l'avenue de la RTNC. C'était en présence du vice-gouverneur de province et du chef de bureau intérimaire de la MONUSCO, témoin de l'événement, Gabriel Ouamenia.
C'est une bâtisse d'un niveau d'étage peinte aux couleurs café au lait. Elle est élevée sur une superficie de 10 mètres de largeur et mesurant 20 mètres de longueur. Elle comprend également 7 pièces au rez-de-chaussée, 2 toilettes internes et 3 autres pour l'usage extérieur. Selon l'architecte, l'ouvrage comprend également 8 pièces, un vaste salon et 2 toilettes à l'intérieur au niveau du premier étage et 3 autres toilettes à l'usage extérieur. Derrière l'édifice sont construits 2 blocs d'amigo. L'un pour les femmes et l'autre pour les hommes. La dotation de ces bâtiments aux autorités congolaises vient mettre fin au calvaire et aux menaces de déguerpissement que connaissait cette unité de la police, longtemps locataire en province, a affirmé l'inspecteur général adjoint de l'inspection générale de la police, le commissaire divisionnaire Roger Singa, présent à la cérémonie. Rappelons que le coût global des travaux de cet ouvrage est financé entièrement par la MONUSCO à travers son unité de la police. L'UNPOL s'élève à 153 000 $ américains, a affirmé le chef de bureau intérimaire, M. Gani. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Kapi.
Rendons-nous en Ituri. Plusieurs localités du secteur de Banyalikilo, autrefois occupées par des groupes armés, sont désormais sous le contrôle des militaires FARDC. C'est le résultat des opérations militaires en cours depuis plus de 2 semaines, visant principalement les groupes armés opposés au processus de paix dans des localités telles que Lodjo, Beba, Njakalai, Gangala, Dubele et Ariwara. Le bilan officiel de ces opérations n'est pas encore disponible. La société civile note toutefois un retour progressif mais encore difficile des populations dans leur village. Chérubin Kukundilawa, coordonnateur adjoint de la société civile de Mongwalu, encourage l'armée à poursuivre ses efforts afin que les milliers d'enfants déplacés puissent retrouver leurs écoles et leurs villages. Il est joint par Ezekiel Mousalia.
Nous sommes en train de louer et jusqu'à hier, nous avons reçu des témoignages de la population qui commence déjà à avoir accès dans la zone pour aller vérifier leurs maisons, comment leurs biens sont. Donc en termes d'évaluation, ils commencent déjà à y aller et avec le souci de retourner s'installer dans les jours qui sont vraiment proches. Et certes que cela va permettre à ceux qui aient déjà libre passage jusque vers la région de Yedi. Et c'est déjà des acquis que nous sommes en train de louer. Les effets positifs que ces opérations peuvent avoir sur Mongwalu, c'est qu'il peut y avoir des engorgements de la commune parce qu'à un moment, la commune a été surpeuplée. Alors, quand la commune sera désengorgée, c'est que ça permettra à ce que la population puisse retourner vaquer à ses occupations librement. Mais aussi, cela peut permettre à ce que même les écoles qui ont repris timidement ou les enfants qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire ici à Mongwalu, mais avoir la possibilité de reprendre les cours dans leur propre milieu d'origine. Cela peut faire aussi quelque chose.
Autre nouvelle, je vous le disais dans les titres, dans la ville de Beni au Nord Kivu, l'Agence congolaise de promotion des droits des personnes handicapées plaide pour la mise en place d'un cadre d'interprétariat de la langue des signes dans tous les bureaux administratifs. C'est pour faciliter l'intégration professionnelle des sourds-muets, mais aussi lutter contre leur stigmatisation dans la société. Cet appel est lancé en marge de la Journée internationale des sourds-muets le 23 septembre et de la semaine dédiée aux langues des signes. Emmanuel Kakoulé, président de l'Agence congolaise des promotions des droits des personnes handicapées à Beni, explique au micro de Guylaine Kassassia.
Il y a un problème très sérieux, surtout dans la région ici, est sécurisée par rapport aux personnes sourdes. Lorsqu'ils effectuent juste des mouvements, et c'est tout dans des zones où ils ne sont pas connus par la communauté, ils ont parfois des difficultés à parler, à langue des signes et tout, ça pose problème. Donc, des fois, on a tendance à les assimiler aux rebelles et tout parce qu'ils ne parlent pas. Je me rappelle effectivement des cas qu'on a pu déplorer à Mangina. C'était un cas d'une personne sourde parce que tout simplement, il n'avait pas la possibilité de communiquer avec la communauté ou la lapider. Tout est croyant que non, mais il s'agit juste d'un ADF qui s'est déguisé pour qu'il puisse entrer et filtrer la communauté. Donc c'est un problème. Donc, les chefs locaux, normalement, les autorités locales, devraient faire un effort pour c'est un peu de voir. Parce que le grand problème est qu'il y a carence des interprètes à langue des signes pour que l'environnement puisse comprendre de qui il s'agit. Le grand travail qui devrait normalement être fait au niveau de chaque région, au niveau de chaque communauté, c'est d'avoir des interprètes à langue des signes. Les chefs coutumiers, les chefs, je ne sais pas, des localités et tout, ils doivent faire un effort pour en avoir.
Notez que cette journée est célébrée cette année sous le thème « S'inscrire pour les droits à la langue des signes ». Dans l'actualité aussi, un leader communautaire de la chefferie de Bachou, au Nord Kivu, dénonce ce qu'il qualifie d'exploitation illicite de cuivre dans cette entité du territoire de Beni. C'est à une centaine de kilomètres au sud-est de Beniville. Sadam Patangouli affirme qu'une société dénommée Mukeve Roi Metal SRL exploiterait du cuivre dans le village de Kavasewa dans une opacité totale. Il sollicite l'implication des autorités à tous les niveaux pour y voir clair. Sadam Patangouli, un des leaders communautaires de la chefferie de Bachou, est joint par Marc Marofimbo.
On ne sait pas qui couvre cette société dénommée Mukeve Roi Metal SARL qui exploite du cuivre dans les Kavasewa, Chitehe et Katiri. Lorsqu'on élabore le budget de la chefferie, personne n'a fait mention de cette société parce que on voudrait que cette société rétrocède au moins quelque chose à la communauté locale, mais il se pourrait qu'il y ait une très grande couverture autour de cette société, ce qui fait que tout le monde s'éteint. Nous pensons que non, il faut faire comme au Katanga, comme partout ailleurs où les populations locales ont droit de bénéficier de l'exploitation de leurs minéraux pour que nos minéraux, nos cuivres ne puissent pas être objet d'insécurité dans les jours qui suivent. Parce que une fois cette société se retrouve, alors que la population locale ne voit absolument rien du tout, ça va poser problème dans l'avenir. C'est pour cela que nous appelons les autorités de pouvoir s'impliquer pour voir clair dans cette exploitation.
Contactez le chef de la chefferie de Bachou, Mouami Abdoul Kalimir III, d'y être au courant de la présence de cette société dans son entité. Il est cependant surpris d'apprendre que cette société a commencé l'exploitation alors qu'elle prétendait procéder à des recherches. C'est donc une affaire à suivre. Par ailleurs, outre les minerais, le territoire de Walikale-au-Nord Kivu dispose désormais des potentialités hydrauliques capables de produire et fournir de l'énergie électrique à toute la province du Nord Kivu. Un député provincial honoraire qui le dit invite le gouvernement et d'autres partenaires à investir dans ce secteur en vue de booster le développement en soutenant l'entrepreneuriat local. Denise Loukesso nous en dit plus.
Ces vastes territoires de la province, enclavés, regorgent d'innombrables chutes d'eau capables de produire jusqu'à 12 MW selon les techniciens. Mais seulement voilà, le territoire de Walikale n'est toujours pas électrifié et malgré toutes les potentialités dont il dispose, Walikale reste sous-développé. Prince Kihangi, député provincial honoraire de Walikale, invite les investisseurs à s'intéresser à cette partie de la province du Nord Kivu.
C'est le cas de la rivière Uliru, avec une capacité de plus ou moins 11,5 MW. La rivière Loa, capable de produire près de 5 MW. La chute Nyabingula, avec une capacité de près d'un mégawatt. La chute Mouissembe, avec une capacité de près de 5 MW. La rivière Lubérique, avec une capacité de près de 2 MW. La rivière Luka, avec une capacité de près de 5 MW. La rivière Osokari, avec une capacité de près de 2 MW. Que donc si le gouvernement et des partenaires investissaient dans ces secteurs-là, ça va booster le développement local et on va devoir assister à un boom économique dans le territoire de Walikale.
Signalons que l'agriculture est aussi pratiquée dans Walikale, mais par manque d'infrastructures, elle ne participe pas au développement du territoire. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
À Kananga, plus de 80 agents de la société de gardiennage Magenia Sécurité qui ont vu leur employeur mettre fin à leur contrat demandent aux autorités de s'impliquer pour les aider à obtenir le paiement de leurs indemnités de sortie. Dans une déclaration lue par l'un d'eux, ils indiquent avoir réclamé sans suite jusqu'à ce jour. Voici un extrait de leur déclaration.
Nous, agents de sécurité de la société de gardiennage Magenya Protection Kananga, ayant reçu les lettres de fin contrat, venant à ce jour interpeller le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le vice-ministre de l'Intérieur, les autorités de régulation de la sous-traitance, toutes autorités compétentes, de s'impliquer à notre réclamation de l'indemnité de sortie selon le contrat de travail et le code de travail en RDC. Une chose qui n'est pas toujours faite malgré nos multiples réclamations depuis le 1er mai 2024 à nos jours auprès du chef d'agence de Kananga. Se voyant préjudicié de nos droits, sollicitant votre implication pour nous mettre dans nos droits.
Pour sa part, le chef d'agence locale dit ne pas avoir le pouvoir de répondre à leurs revendications. Il explique à ses agents avoir transmis leur dossier à sa hiérarchie. Dans la province du Maniema, au moins 30 agents et cadres de la Direction générale des recettes du Maniema sont remplacés par des nouvelles personnes nommées par arrêté ministériel. Ainsi, les agents qui viennent d'être remplacés réclament leur salaire de plus de 15 mois avant de céder le fauteuil au nouveau venu. L'un d'eux, ayant requis l'anonymat, s'exprime dans ses propos recueillis par Florence Kizalonga.
Nous, cadres de la Direction générale des recettes du Maniema, victimes d'un remplacement illégal, avons le regret d'annoncer à l'opinion publique le fait d'être remplacés de manière arbitraire par la nouvelle équipe détentrice des notifications et mise en service se référant à l'arrêté du 12 septembre 2024, justifiant ainsi leur nomination au sein de la Direction générale des recettes du Maniema. Alors que ce fameux arrêté n'a jamais été rendu public par l'autorité provinciale, nous dénonçons l'effectivité des opérations de la remise qui ont commencé depuis le 17 septembre à la division de recouvrement de manière cavalière. Dénonçons également l'impayement de nos arriérés de salaire de l'ordre de 15 mois. C'est pourquoi, avant d'entamer toutes les actions de grande envergure, nous demandons à l'autorité provinciale d'ordonner à madame la directrice générale des recettes du Maniema le paiement de la totalité de nos arriérés de salaire avant de céder la fauteuil au nouveau cadre nominé et c'est sans tergiversion, car dit-on, le travail égale salaire.
Radio Kapi a tenté en vain d'avoir la réaction du gouverneur du Maniema.
Actualité internationale.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa profite de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies pour condamner fermement l'escalade de violence en cours à Gaza. Dans une allocution mardi, il compare le traitement des Palestiniens par Israël à l'apartheid qui a dévasté l'Afrique du Sud pendant des décennies. Le chef de l'État sud-africain appelle également à une réponse globale des leaders mondiaux pour mettre fin à ce qu'il considère comme une injustice flagrante.
L'invité.
Nous sommes au Kasaï central. Le ministre provincial de l'Intérieur interdit tout mouvement des chefs coutumiers en dehors de son entité sans autorisation préalable. La décision est contenue dans une circulaire signée par Alain Lukusa, invité de Radio Kapi. Le ministre provincial de l'Intérieur du Kasaï central dit avoir constaté que plusieurs autorités sont en errance et différents conflits dans leur regroupement ou village sont liés à leurs absences prolongées ainsi qu'à la gestion à distance. Alain Lukusa est avec François Kadima.
Monsieur Alain Lukusa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous interdisez les mouvements de chefs coutumiers. Vous estimez que ce mouvement doit être conditionné par une autorisation. Qu'est-ce qui motive cette décision?
D'abord, selon l'esprit de la loi 15, portant statut de chef coutumier, tout chef a l'obligation de rester en permanence dans son entité ou dans son groupement. Mais depuis un certain moment, nous voyons l'afflux des chefs coutumiers quittant leurs entités, c'est-à-dire les territoires qui sont loin de la ville, en errance sur la ville de Kananga et parfois fréquentant même des débits de boissons en dessous des arbres en train de se regrouper, ceux qui n'honorent pas le pouvoir coutumier en soi. C'est ainsi que nous nous sommes dit, le déplacement des chefs coutumiers parce qu'ils sont gardiens des entités, ils sont gardiens de la population dans leurs regroupements respectifs, ils doivent être là en permanence pour garder la population et éviter différents conflits qui parfois sont l'émanation de leur absence prolongée et les intérimaires commencent à prendre le goût du pouvoir et ce qui parfois fait naître des conflits coutumiers.
Alors qu'est-ce qui est réellement interdit? Simplement les mouvements? La liberté de circulation ne peut pas être interdite à une personne?
Dans notre circulaire, nous n'avons pas interdit la liberté d'aller et de revenir, surtout qu'elle est constitutionnelle, mais nous avons voulu réglementer ou bien organiser les déplacements des chefs des entités, c'est-à-dire pour leur déplacement de leur territoire ou des secteurs pour la ville de Kananga, ils sont censés informer leur chef des secteurs et ceux-là doivent leur livrer une feuille de route pour qu'ils puissent se rendre sur la ville. Ils peuvent être en ville pour des besoins personnels, familiales et parfois pour rencontrer l'administration, mais néanmoins, le document que le chef des secteurs pourra établir pour leur déplacement, c'est ces documents-là qui pourra aussi servir à ce qu'ils puissent entrer directement en contact avec nous, l'administration. D'autant plus que nous sommes en train de voir, il y a un système aujourd'hui, certains protagonistes qui ne sont pas chefs coutumiers, qui ne sont pas chefs de groupement, mais qui viennent facilement sur la ville, habillés en tenue de pouvoir coutumier, venir parfois induire l'administration en erreur sous prétexte qu'ils sont chefs de groupement alors qu'ils ne le sont pas. Et pour pallier à cette situation, c'est pourquoi nous avons mis des garde-fous qu'un chef de groupement est censé être reconnu par son chef de secteur et alors celui-là va lui établir un document de feuille de route, c'est ce qui va lui donner accès à venir nous voir en tant qu'administration. Mais la liberté d'aller et revenir, ils peuvent le faire, mais une absence prolongée va créer une vacance au sein de leurs entités.
Quelles sont les mesures d'accompagnement de cette décision pour qu'elle soit réellement respectée?
D'abord, nous sommes ravis par le fait que nous avons reçu des appels de toutes parts, ainsi que même des chefs coutumiers et certaines organisations des chefs coutumiers qui ont félicité et qui ont salué cette mesure que nous avons prise. Je sais que ces associations-là vont nous accompagner, ainsi que le pouvoir public, pour que ces mouvements-là, parce que notre lutte dans tout cela, c'est pour éviter la multiplication ou bien la multiplicité des conflits coutumiers dans nos différents groupements.
Est-ce que le ministère de l'Intérieur a les prérogatives de prendre une telle décision? Est-ce que ça ne vous met pas en conflit avec les chefs coutumiers?
Nous sommes ministère de l'Intérieur et Affaires coutumières. Cette décision, elle est plutôt salvatrice pour les chefs coutumiers qui sont reconnus légalement. Et je ne pense pas que cela pourra nous mettre en conflit, d'autant plus que c'est pour préserver et faire respecter le pouvoir coutumier que nous avons pris cette décision. Les chefs coutumiers sont des grands responsables. Je pense que, en termes de préserver et de faire respecter le pouvoir coutumier, cette mesure est là pour que le pouvoir coutumier puisse reprendre sa place. D'autant plus que certaines personnes aujourd'hui, il est différent aujourd'hui d'établir une différence entre les tradis praticiens et les chefs coutumiers par le port des emblèmes du pouvoir coutumier. Mais cette décision est en train de rétablir le pouvoir coutumier dans sa place et que le chef coutumier soit respecté comme ça a été dans le temps.
Monsieur Alain Lokoussa, nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie.
Le ministre provincial de l'Intérieur du Kassai Central répondait aux questions de François Kadima. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.